Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours ici au CIPCA, c'est la 5e édition, le salon immobilier bas carbone. Ici au Grand Palais, dans le 8e arrondissement à Paris, où nous recevons depuis hier de nombreux invités. On continue aujourd'hui et je suis ravi d'accueillir Zoubert Lafage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Centrale Lille et spécialiste de la construction 4.0.
Tout à fait.
Alors première question, la construction 4.0, c'est quoi ça ?
La construction 4.0, le 4.0 vient de l'industrie 4.0, le terme 4.0, il est lié en fait aux quatre révolutions industrielles.
Ok.
Donc qui sont liées en fait souvent à des changements énergétiques et assez importants, c'est pour ça qu'on appelle révolution industrielle. Mm-hmm. Et on est dans l'ère de l'industrie 4.0, donc on va adapter la construction 4.0 par rapport à tous les autres secteurs qui sont l'industrie 4.0, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies assez importantes qui sont actuellement en vigueur.
4.0 qui promet de gagner en productivité, en sobriété grâce au lean, au numérique, à la préfabrication, à l'intelligence artificielle aussi.
Tout à fait.
Donc on retrouve tous ces aspects-là.
Et on trouve, je préfère utiliser les termes construction modulaire que le terme préfabrication.
Ouais.
Je préfère aussi nuancer sur la partie intelligence artificielle si elle est bien utilisée.
Okay.
Pas forcément l'intelligence artificielle celle qu'on est habitué, c'est-à-dire il faut qu'elle soit adaptée par rapport aux besoins. Et l'usage et le bon usage et le bon sens, il est très important pour pouvoir dire et vérifier et mesurer qu'elle apporte de solutions et non pas une intelligence artificielle qui est mal utilisée, mal conçue, mal dimensionnée.
Et consommatrice en plus d'énergie.
Et surtout, elle est forcément ouais. consommatrice d'énergie.
Mais il y en a certaines encore plus que d'autres.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut l'adapter
exactement
au modèle.
Le secteur du bâtiment génère environ 42 millions de tonnes de déchets chaque année en France. L'industrialisation peut-elle réellement faire baisser ce chiffre à grande échelle ?
Je pense qu'elle est obligée de le faire. Elle ne peut pas faire autrement. Beaucoup d'autres secteurs, ils ont avancé, ils ont fait leur transformation. Je pense à l'aéronautique, je pense à l'agroalimentaire, je pense à l'automobile. Les secteurs de la construction, je préfère utiliser ce terme au lieu d'utiliser le terme bâtiment. Mmh. Le secteur de la construction, il est obligé de faire sa propre transformation pour pouvoir diminuer les déchets. Je vais utiliser le terme déchets parce que c'est un terme juridique, mais on va aller jusqu'à utiliser autre chose qui est plus parlante et plus pratique, c'est les gaspillages. Il va falloir chasser les gaspillages dans le secteur de la construction. Et ça, il y en a des méthodes pour ça qui sont vérifiées, appliquées dans d'autres secteurs industriels et on les a adaptées, digérées et les adaptées aussi au secteur de la construction qui sont le lean construction, construction lean.
Alors, c'est quoi ça justement,
la construction lean, c'est d'abord, c'est issu en fait des méthodes collaboratives inventées par Toyota.
Okay.
Ça, on revient à la base. Il y a deux principes. Pour donner quelque chose de très simple en résumé, il y a deux points importants dans le lean construction. La collaboration, mm-hmm. c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire les parties prenantes. Collaborer ensemble. Et la deuxième chose, c'est la chasse au gaspillage. Et tous les gaspillages ont été en fait identifiés et ça permet en fait de travailler que sur la valeur et les clients, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment satisfaire les clients.
Okay.
Ça veut dire au niveau environnemental, au niveau coût, au niveau utilité. Et ça, c'est vraiment une transformation assez importante dans le secteur de la construction. Quelques entreprises ont déjà commencé.
Ouais.
Nous, au niveau de la formation, on le fait d'une manière assez importante parce que ça permet en fait de dire c'est pas la technologie qui va résoudre le problème, mais surtout l'humain avec les méthodes collaboratives et les parties prenantes.
Et la ligne construction, donc les premiers gains, c'est quoi ? C'est les délais qui vont être réduits, c'est la matière, la qualité, c'est tout ça à la fois ?
C'est d'abord la première chose, une atmosphère de travail meilleure, collaborative.
Donc, okay. C'est plus performante du coup après.
Oui, on va pas utiliser. J'aime pas trop utiliser le terme performance,
ouais.
Mais
ça peut contribuer.
Oui, ça contribue d'une manière assez importante.
Ouais.
Et ça permet aussi de gagner sur le coût parce qu'on a chassé les gaspillages au niveau transport, on a chassé les gaspillages au niveau de surproduction, Ça veut dire on réfléchit ensemble et on trouve des solutions ensemble. pour satisfaire les clients et satisfaire les ouvriers, le personnel et l'humain qui est derrière. Parce le premier investissement, il ne doit pas être un investissement sur la technologie, ouais, mais sur l'humain.
Ok. Isbert, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le bâtiment reste un secteur quand même où les gains de productivité sont plutôt faibles. Est-ce que le principal problème est finalement notre manière d'organiser les chantiers eux-mêmes ?
Complètement, parce que d'abord, il y a beaucoup de parties prenantes.
Ouais.
Donc, il n'y a pas du tout de collaboration. Et il n'y a aucune, il y a pas beaucoup d'innovation, il n'y a aucune transformation qui n'a été faite. Cet aspect-là, ça veut dire que la collaboration peut venir aussi maintenant avec... il y a de nouveaux types de contrats, ce qu'on les appelle par exemple l'IPD, mm-hmm, The Great Project Delivery, ça veut dire que ça peut être aussi d'un point de vue juridique, qui permettent en fait d'aller plus loin sur l'aspect collaboration, qui permet en fait de satisfaire la majorité des parties prenantes, mais surtout les clients. C'est les clients, les mots clés pour moi, clients, valeur, collaboration et chasse au gaspillage.
Et chasse au gaspillage. On reparle quand même un petit peu, parce que c'est un sujet qui est récurrent et qui est tout le temps là, mais de l'intelligence artificielle. Elle arrive dans le domaine de la planification, le contrôle, la maintenance aussi. Sur quelles tâches elle est déjà réellement hyper utile aujourd'hui ?
Elle est utile, par exemple, si vous faites un recensement de quelque chose. Si vous recensez, par exemple, tous les bâtiments de la région Hauts-de-France, ou bien en France, qui posent des problèmes et de mettre en priorité, ce travail, on a les bases de données qui sont déjà existantes. Ouais. Si on va chercher, en fait, ces priorités, ça nous demande énormément de temps. Ça nous demande énormément d'énergie, ça nous demande énormément de ressources humaines. Là, l'intelligence artificielle permet de gagner du temps, permet d'apporter, en fait, une valeur ajoutée sur le recensement, en fait, des bâtiments et des priorités. Et là, c'est vraiment, il y a une utilité quand il y a des bases de données assez disponibles avec une bonne data derrière.
Avec le digital, en fait, les outils évoluent à une vitesse très rapide, ce qui implique aussi, puisque vous parliez de l'humain tout à l'heure, qui monte en compétences, qu'il s'upgrade et qu'il acquiert de nouvelles compétences. Ça, c'est évident aussi.
Complètement. Pour moi, le meilleur investissement, c'est l'investissement sur l'humain. Et par exemple, je prends l'exemple de Toyota, qui est vraiment un bon exemple. Les gains engendrés par l'application du Lean, même si eux, ils ne l'appellent pas Lean, parce que le Lean, c'est un mot américain qui a été utilisé pour expliquer en fait cette méthode de Toyota. Mais il y a des livres pour ça qui sont TPS, Toyota Production System, qui sont très intéressants à lire. Toyota permet le gain en coût de l'application de Lean. C'est un moyen d'investissement également pour améliorer leur process.
Ouais.
Donc, même pas besoin de subvention quelque part. Et ça, c'est un élément assez important en termes de vision et en termes de bien gérer aussi les coûts.
Évidemment. Ouais. On parle un petit peu de décarbonation, parce que c'est un sujet évidemment qui vous parle. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer précisément le gain de carbone obtenu grâce aux lignes construction, par exemple ?
On peut le mesurer au moment, parce qu'on peut mesurer le gain en termes de gaspillage, ça on peut le mesurer.
Ouais.
Et si on arrive à le mesurer, on peut déterminer la partie de le coût de la décarbonation sans aucun problème.
Okay.
Ça c'est certain. Mais si on est très performant dans la partie constructionnelle, imaginons que vraiment par exemple ça marche très très bien l'application de la construction Lean. Là, il va falloir encore inventer de nouvelles méthodes en fait, de production, de construction, qui permettent d'aller plus loin. Ça veut dire qu'il va falloir quand même changer de méthodes de construction. Pas uniquement on ne va pas se concentrer uniquement sur les ressources, sur les matériaux. Il y a un changement, il y a une adaptation. En fait, il faut qu'on s'adapte. Le mot-clé, il faut qu'on s'adapte par rapport à la situation du changement climatique et des besoins. Même si on permet de mesurer, parce qu'on peut mesurer, puis on trouve qu'on a des bonnes solutions, mais le problème, il est vaste, et donc il va falloir aussi innover pour aller encore plus loin après.
Et je reviens un petit peu sur le sujet de la formation. Est-ce qu'il vaut mieux former directement sur le chantier ou on forme en salle les...
Ah, c'est, en tant que formateur, je suis persuadé qu'il faut former dans le chantier.
Ouais.
Le secteur de la construction, c'est vraiment... c'est un écosystème.
C'est le terrain, quoi.
Terrain, il faut que ça soit sur place. Et on met en place, on travaille au niveau de la formation sur de nouvelles méthodes pédagogiques de formation sur les chantiers, avec des jeux de rôle adaptés. par exemple aux ouvriers, adaptées aux architectes. On a des méthodes adaptées aussi aux financiers, adaptées au middle management.
Ouais.
Et bah, y a beaucoup de travail à faire dans le middle management. Parce que les CEO, en général, quand ils sont convaincus, ça va tout seul.
Ouais.
Mais les middle management, il y a énorme... Et les ouvriers également.
Il faut réussir à les embarquer.
On n'a pas beaucoup de problèmes. Mais les middle management, c'est là où il y a... Ouais.
La résistance, un peu.
Ah, c'est normal. C'est l'adaptation. Il va falloir innover sur les aspects pédagogiques. Et on est en train de travailler sur ça avec plusieurs universités au niveau mondial.
Est-ce que la construction 4.0 peut aussi permettre, finalement, de construire moins cher?
Ben, c'est l'objectif. Il faut qu'elles construisent moins cher.
On est capable d'y parvenir, ça.
Oui.
Ok.
Ouais, parce que quand vous achetez, quand vous allez acheter par exemple un smartphone, vous allez regarder l'utilité de votre smartphone et le coût.
Oui.
Le coût, c'est toujours le même. Hein. Mmh. Et puis il va falloir aussi s'intéresser à cette notion de coût. Toyota, elle a pu gagner énormément de clients et de marchés. D'abord au niveau du coût, puis après quand on a reconnu sa qualité de performance. Mmh. On a également d'autres secteurs qui sont un peu de secteurs du luxe. Par exemple, le Lexus, c'est une voiture de Toyota, mais elle a un marché de luxe.
Oui,
et donc, on peut, sur le global, gagner sur le coût sans que l'entreprise, sans que les clients, il faut satisfaire les clients.
Mmh.
Il y a plusieurs types de clients, et ça, c'est très important, sans perdre la qualité, sans perdre la notion de santé, et surtout respect aux clients.
Bien sûr. Bien sûr, c'est la base.
Bah oui, base. Mais je suis désolé, ce n'est pas, dans notre secteur que j'adore, il n'est pas reconnu en tant que tel.
Mmh.
Les clients, il est reconnu en aéronautique.
Ouais.
Vous voyez les normes de qualité en aéronautique quand vous montez dans un avion.
Ouais.
Je ne parle pas encore du spatial, c'est encore autre chose,
ouais.
C'est encore au top niveau. Vous voyez le changement du secteur de la construction, du secteur de l'automobile, comment ils s'adaptent aux clients, sachant qu'ils sont... Ils ont énormément de difficultés.
Oui, oui, mais ils sont obligés de s'adapter.
Bah oui, ils s'adaptent. Pourquoi notre secteur ne s'adapte pas? Parce qu'il n'a pas cette notion de client. Et je mets tout de suite à côté la notion de valeur. Cette notion de valeur, c'est une science qu'il va falloir maîtriser et connaître pour le secteur de la construction. Donc il y a énormément de travail et des défis qui sont en cours.
Avec la robotisation et la préfabrication, même si vous n'aimez pas le terme, je le reprends quand même, est-ce qu'on va surtout transformer les métiers du chantier ou certains vont disparaître, tout simplement?
Quand vous avez, par exemple, un projet de construction ou une infrastructure assez importante à mettre en place, vous avez besoin de compétences. Et sur les compétences, maintenant, on est obligé d'avoir des robots. L'être humain, il n'est pas là pour faire le travail d'un robot. Il est là pour penser, et cette notion de penser devient très importante, et concevoir et s'adapter également au client. Donc la robotisation, on est obligé de la faire. Et si on regarde les données actuellement au niveau de la robotisation, je vous dis, les premiers pays où il y a le plus de robots par tête d'ingénieurs ou bien peut-être d'habitants, c'est la Corée du Sud.
Okay.
La Corée du Sud, ils ne sont pas connus par le chômage. La Corée du Sud, ils sont connus par l'innovation. La Corée du Sud, ils ont des produits de qualité au niveau mondial grâce à la robotisation, mais grâce aussi à l'innovation. Et cette robotisation devient vraiment primordiale, surtout s'il y a un type de Covid qui peut arriver une deuxième fois ou une troisième fois.
Ouais.
Et puis, on a des projets qui sont complexes.
Ouais.
On ne peut pas se permettre de faire un bitunnel uniquement mettre en danger les ouvriers et le personnel et l'humain.
Et c'est une question aussi de politique publique, c'est-à-dire qu'il faut soutenir aussi, évidemment, l'innovation.
C'est un sujet très important et sincèrement, l'innovation, tout le monde en parle, on a des directeurs d'innovation qui parfois ne comprennent même pas ce que c'est l'innovation. On ne peut pas faire l'innovation s'il n'y a pas un environnement d'innovation.
Mmh. Mmh.
On ne peut pas le faire si on n'a pas l'environnement d'innovation. Moi, j'ai eu de la chance de voyager un peu partout et j'étais dans les centres d'innovation qui sont vraiment un succès. Il y a forcément un environnement d'innovation pour faire de l'innovation. Et ça, c'est un élément indispensable. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas d'avoir une direction d'innovation.
Il ne faut pas le décréter,
complètement.
Il faut l'organiser.
Tout à fait.
Un grand merci à vous
d'être
venu voir sur ce plateau et puis bon salon.
Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci
vous étiez le bienvenu. Merci à vous de votre fidélité. On va se retrouver dans quelques instants avec un nouvel invité qui va venir nous rejoindre sur le plateau de Radio Imo et Radio Territoria pour continuer à vous faire vivre cette deuxième journée de la 5e édition du Salon Immobilier Bas Carbone, le CIPCA. A tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.